Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Nouvelles fractures européennes autour du sort des migrants. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie refusent de participer au mini-sommet de Bruxelles dimanche. Dans ce journal, la correspondance à Budapest de Florence Labruyère. De son côté, Emmanuel Macron fustige la lèpre populiste qui gangrènerait l'Europe. Le président français a utilisé un vocabulaire violent pour dénoncer ceux qui s'opposent à l'immigration de masse. L'analyse de Ludovic Piétenu dans cette édition. Le Nicaragua bascule dans la violence. Le régime du sandiniste Daniel Ortega lance un assaut militaire contre la ville rebelle de Masaya. Les précisions de Fanny Bouvard. En France, le Parlement adopte la loi sur le secret des affaires, un texte destiné à protéger les entreprises de l'espionnage industriel. Mais les associations anticorruption y voient une menace pour les lanceurs d'alerte ou les journalistes. Éric Halte, vice-président de l'association Anticor, est notre invité ce soir. La question migratoire accélère les divisions au sein de l'Union européenne. Nouvelle illustration aujourd'hui, les pays du groupe de Visegrad refusent de participer au mini-sommet de Bruxelles dimanche. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie jugent la réunion inacceptable, pour reprendre les termes du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Ce mini-sommet avait été convoqué hier à la hâte par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, avec pour objectif de répartir les migrants au sein même de l'Union européenne, une répartition dont les pays du groupe de Visegrad ne veulent pas entendre parler. Ils l'ont fait savoir aujourd'hui à Budapest, où nous retrouvons Florence Labruyère.
Nous n'irons pas au mini-sommet de Bruxelles. Viktor Orban a été clair et net. Si le Premier ministre hongrois et ses homologues polonais, tchèques et slovaques refusent de participer à ce sommet, c'est pour une bonne raison. La Commission européenne veut mettre sur la table un plan de répartition des demandeurs d'asile entre les pays membres. Et ce, afin de soulager l'Italie et la Grèce qui sont submergées par les réfugiés. Bruxelles fait donc appel à la solidarité communautaire. Mais pour la Hongrie et ses alliés, ce plan est un plat réchauffé que l'Union européenne essaye de leur servir. Un plan que Bruxelles essaye vainement de mettre en place depuis 2 ans. Mais il est difficile de persuader des demandeurs d'asile désireux de rejoindre leur famille en Allemagne d'aller par exemple s'installer en France. Il n'y a pas de consensus sur cette question. Et cela ne sert à rien de continuer dans cette direction, a souligné Viktor Orban. Il vaudrait mieux discuter de points sur lesquels nous sommes d'accord, comme la défense des frontières et la mise en place de camps de réfugiés en dehors des frontières de l'Union européenne. L'Europe apparaît donc plus que jamais divisée sur la question de la migration. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz, qui participait à la réunion de Budapest, a prononcé un discours conciliant. « Quoi qu'il arrive, il faut préserver l'unité de l'Europe », a déclaré le chancelier, dont le pays assurera la présidence de l'Union européenne à partir du 1er juillet.
Florence Labruyère, correspondante en Hongrie. En revanche, l'Autriche et l'Italie, deux autres pays partisans d'une ligne dure sur l'immigration, devraient participer dimanche à ce mini-sommet de Bruxelles. Ce virage populiste d'une partie de l'UE complique les ambitions européennes d'Emmanuel Macron. En déplacement à Quimper, aujourd'hui, le président n'a pas hésité à dénoncer, je cite, « la lèpre qui monte en Europe et ceux qui trahissent l'asile ». Emmanuel Macron, bousculé par un rejet grandissant de l'immigration clandestine au sein des peuples européens. Ludovic Piétenu, le chef de l'État, a mis beaucoup de gravité dans son discours de Quimper, comme s'il voulait conjurer son isolement croissant sur la scène continentale.
Oui, le ton et les mots sont graves, un peu comme quand avant-hier l'Élysée présentait la rencontre franco-allemande comme l'heure de vérité pour l'Europe. Le moment que le continent traverse ne prête clairement pas à sourire. Le président a parlé de temps troublé, mais Emmanuel Macron a aussi tout intérêt à en ajouter un peu en termes de dramatisation, de façon à emmener derrière lui une majorité de l'opinion publique française. On le rappelle, on est à 11 mois des élections européennes. Il s'exprimait devant un parterre de Bretons, essentiellement des élus, mais à travers eux les habitants de la région. J'ai besoin, disait-il, de ces terres qui croient dans l'Europe. N'oubliez jamais d'être européen, des Européens bretons, comme vous savez l'être. Il a vanté finalement la modération bretonne, s'attaquant donc à ces radicalités, ces extrêmes droites qui montent partout en Europe, ces partis anti-immigration, au pouvoir ou qui participent au pouvoir, Italie, Autriche, Hongrie, Grande-Bretagne, Pologne, Slovénie, et dans une moindre mesure Belgique, Bulgarie, Danemark, Finlande. De quoi se sentir un tout petit peu seul quand on est un dirigeant pro-européen comme lui. D'où sa colère contre les élites, on vient de l'entendre, qui selon lui, lui ferait plus de reproches qu'elle n'en forme formule à l'égard des extrêmes. Emmanuel Macron a bon dos de critiquer ses élites comme le font les forces populistes qu'il critique et qu'il qualifie de lèpre. Mais c'est assez contradictoire que de taper sur ses élites. C'est ici la logique du « en même temps » qui est à l'œuvre dans son discours. Une rhétorique plutôt risquée que de recourir aux mêmes armes que l'adversaire qu'on prétend combattre.
Ludovic Piétenu, chef du service politique de France Culture, merci. Arrêtons-nous à présent sur la situation dramatique que vit le Nicaragua. La crise politique que traverse le pays depuis la mi-avril a déjà fait 187 morts. La plupart des victimes sont des opposants au régime de Daniel Ortega. Le vieux révolutionnaire sandiniste tient le Nicaragua d'une main de fer. Il n'hésite plus à réprimer dans le sang les manifestations contre l'insécurité sociale dans un pays considéré comme le plus pauvre de l'Amérique centrale. Mais aujourd'hui, l'opposition réclame la démission d'Ortega. En réponse, le président a lancé un véritable assaut militaire sur la ville rebelle de Masaya, 100 000 habitants situés à une trentaine de kilomètres de la capitale Managua. Les précisions de Fanny Bouvard.
Masaya est connu comme un véritable bastion de résistance contre le pouvoir central. À la fin des années 70, les habitants ont même pris fait et cause pour Daniel Ortega et la révolution sandiniste, et donc contre le dictateur Somoza, alors à la tête du Nicaragua. Presque 40 ans plus tard, Masaya est toujours aussi combative et demande sans détour le départ d'Ortega. En deux mois, des groupes d'opposition se sont formés et armés, quartier par quartier. Ils ont monté des barricades, des barrages sur tous les axes principaux, et la ville est devenue une cible pour le gouvernement. Impossible de dire combien de morts ont fait exactement les combats quotidiens dans Masaya, et la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui s'est rendue sur place à la fin du mois de mai, n'a pas encore dévoilé son rapport. D'ailleurs, d'autres organismes internationaux tels que l'Union européenne et le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme viennent d'être invités au Nicaragua pour enquêter sur la situation. C'était l'une des exigences des évêques qui organisaient ce week-end la médiation entre opposition et gouvernement. Les discussions ont même été suspendues le temps que les invitations officielles soient envoyées. La médiation devrait donc reprendre prochainement pour évoquer en priorité l'organisation d'élections générales anticipées dès 2019, soit 2 ans plus tôt que prévu.
Fanny Bouvard, merci. Et les évêques de Managua sont partis à Masaya ce soir pour tenter d'éviter un nouveau massacre. L'église catholique nicaraguayenne qui joue un rôle de médiation dans le conflit entre Daniel Ortega et l'opposition. En France, Inès, une adolescente de 14 ans hospitalisée à Nancy dans un état végétatif, est morte aujourd'hui. Hier, ses médecins avaient décidé d'arrêter les soins contre l'avis de ses parents. Inès souffrait d'une maladie neuromusculaire auto-immune. Le protocole d'arrêt des traitements avait été validé par 3 décisions de justice, Daniel Messager.
Ce sont 3 décisions de justice qui avaient été rendues et elles allaient toutes dans le sens de l'arrêt des traitements. La jeune fille était dans un état végétatif sans plus jamais aucun moyen pour les médecins d'établir le moindre contact. Il est rare, lorsqu'il s'agit d'un enfant, que les médecins passent outre la volonté des parents. Mais l'équipe médicale de Nancy, pour qui évidemment cet arrêt des traitements a dû être éprouvant, a rempli son rôle qui est d'assumer le choix médical. Le professeur Steven Lorenz dirige le Coma Science Group à Liège. C'est l'un des centres spécialisés les plus réputés au monde.
Il faut prendre des décisions qu'il ne faut jamais banaliser. Ce n'est pas rien de laisser mourir quelqu'un. C'est une décision médicale. Ce sera toujours une décision médicale. Donc laisser mourir quelqu'un, ça fait aussi partie de notre métier. Les études de médecine, c'est l'art de guérir. Mais malheureusement, notre métier ne se limite pas à ça.
Dans le cas de Vincent Lambert, pour lequel on pourrait établir un parallèle, pourquoi alors les décisions de justice, qui elles aussi allaient toutes dans le sens d'un arrêt des traitements, n'ont-elles pas été appliquées? La réponse est que les médecins et la structure hospitalière où ils se trouvent depuis 10 ans ont choisi de ne pas les appliquer. Les médecins successifs ont subi des pressions. Cette affaire ultra médiatisée a figé les positions. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit de nouveau trancher, soit ordonner une autre expertise, soit statuer sur un arrêt des traitements que le médecin actuel semble prêt à appliquer.
Daniel Messager, merci. Le Parlement a définitivement adopté aujourd'hui la loi sur le secret des affaires à l'issue d'un ultime vote au Sénat. 248 voix pour et 95 contre. La majorité et la droite ont voté le texte alors que la gauche l'a rejeté. Cette loi sur le secret des affaires vise à mieux protéger les entreprises contre le pillage d'innovation et la concurrence déloyale, selon les termes de la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Une démarche contestée notamment par les associations de lutte contre la corruption. Invité de ce journal, le magistrat Éric Halte, vice-président de l'association Anticor. Bonsoir.
Bonsoir.
Éric Halte, pourquoi contester finalement une loi qui se propose de protéger les entreprises ?
Alors, cette loi ne protège pas seulement les entreprises. Cette loi revient sur le principe de liberté d'expression inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est un des droits les plus précieux de l'homme. Et c'est un retournement quasiment historique, puisque désormais, le secret est la règle et la liberté d'expression est l'exception. Donc, comment on a une définition très large et très floue du secret? Donc en réalité, c'est l'entreprise qui déterminera ce qui est secret. On a des sanctions très importantes, l'obligation de réparer intégralement le préjudice. Tout ceci se déroulera devant les tribunaux de commerce. Or, le juge de commerce n'est pas le juge de la liberté d'expression, c'est pas le juge qui est spécialisé dans la diffamation. Et la charge de la preuve sera renversée. Autrement dit, c'est pas à l'entreprise de déterminer, de prouver que des secrets ont été illégalement soustraits, ce sera éventuellement au journaliste ou au lanceur d'alerte de prouver qu'il est légitime que le secret qui a été dévoilé correspondait à un enjeu d'intérêt général.
Mais il s'agit tout de même de la transposition d'une directive européenne. La France ne peut pas se défiler.
Alors, il s'agit de la transposition d'une directive européenne, mais le législateur français a une marge de manœuvre. Il n'est pas tenu d'une copie servile de la directive européenne. Il pouvait dire, OK, on transpose la directive européenne, mais on fait en sorte qu'elle s'applique essentiellement au secteur économique, que les journalistes, les lanceurs d'alerte ne soient pas concernés directement. Elle pouvait dire, pour ce qui est de la charge de la preuve, c'est le droit commun qui s'applique. C'est l'entreprise qui doit prouver que des secrets ont été soustraits de façon illicite. Le législateur avait une marge de manœuvre. Il pouvait aussi dire, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent. On a des juges qui traitent des affaires de diffamation. Ils auraient sans doute pu traiter de façon plus pertinente l'équilibre entre la protection du secret des affaires et la liberté d'expression. Non, c'est le tribunal de commerce. Donc dans cette marge de manœuvre, le législateur a choisi la solution, à mon avis, la pire, qui est la transposition servile.
Éric Halte, vous considérez donc que ce texte menace les lanceurs d'alerte, mais comment on définit un lanceur d'alerte? Ça n'est pas une catégorie juridique.
Il menace les lanceurs d'alerte et il menace les journalistes. Les lanceurs d'alerte sont des gens qui connaissent de l'intérieur d'une société, d'une organisation, des secrets, et qui les révèle dans un but d'intérêt général. Soit qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit, soit qu'il y ait une menace sur l'intérêt général. Mais les journalistes aussi sont concernés. D'ailleurs, je vois, quand les sociétés des journalistes de l'Humanité, du Figaro, quand les sociétés de BFM TV, de Mediapart, et aussi celles de Radio France, signent un même texte, je vous dis là, c'est quand même un indicateur d'alerte. Il y a un problème. Or, la majorité dit, bon, nous sommes majoritaires, nous avons raison, et il n'y a pas eu de véritable réflexion, discussion sur la portée de ce texte et ses probables effets pervers.
Alors, les sénateurs socialistes envisagent un recours devant le Conseil constitutionnel. Sur quelle base juridique peut-on imaginer un tel recours, selon vous ?
Le recours au Conseil constitutionnel se fera sans doute sur la base juridique de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui fait partie de notre bloc constitutionnel. L'article 11 dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen doit parler, écrire, imprimer librement. » Donc là, on a un fondamental de la République. Tout dépendra effectivement de ce que le Conseil constitutionnel dira, de la manière dont il interprétera ce texte, mais il l'a déjà interprété d'une façon audacieuse pour censurer une partie de la loi Hadopi. Il n'est pas exclu qu'il fasse preuve, là aussi, d'une certaine audace.
En conclusion, Éric Halte, il faudrait un nouveau texte, il faudrait supprimer cette loi pour bâtir un texte qui ne menacerait pas les lanceurs d'alerte et les journalistes ?
Je pense qu'il faudrait certainement, si on transpose la directive, restreindre au maximum, utiliser au maximum la marge de manœuvre dont dispose un législateur national. Et il faudrait sans doute compléter ce texte par des dispositions sur les investissements stratégiques en France, sur la communication des pièces et des informations à l'étranger, sur la lutte contre l'espionnage de masse. Là, sans doute, pourrait-on atteindre l'objectif. L'objectif n'est pas atteint par la loi. En revanche, cette loi aura très certainement beaucoup d'effets pervers, beaucoup d'autocensure, sans doute, et des procès avec des décisions qui seront peut-être scandaleuses dans un premier temps, même si après viendront la Cour d'appel, la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme. Mais jusqu'à ce que les cas les plus scandaleux arrivent devant la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme, les journalistes et les lanceurs d'alerte concernés seront bien essorés.
Éric Halt, vice-président d'Anticor, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Un mot du temps demain, globalement ensoleillé, mais les passages nuageux seront plus nombreux sur la moitié nord. Température minimale de 9 à 20 degrés du nord au sud, les maximales de 17 à 30 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau.